Et aujourd'hui, dans ces conversations, on va parler des leçons que pourrait prendre Israël dans sa gestion de la guerre suite au récent pourparlers entre la Russie et l'Ukraine. Voici l'avis de notre géopolitologue maison, un de nos géopolitologues maison avec Isaac Franco, bien sûr. Voici donc Daniel Haber qui répond aux questions de Blaise van der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors cette semaine, le monde a été estomaqué, abasourdi par les déclarations de Donald Trump au sujet de l'Ukraine et de la Russie. On a appris que Vladimir Poutine et Donald Trump allaient se rencontrer. Nous, on va axer ces conversations sur comment Israël peut-il tirer des leçons de ces négociations qui se passent entre la Russie et l'Ukraine. Comment Israël peut en tirer des leçons sur la situation au Moyen-Orient?
Bien sûr, donc Israël a des préoccupations immédiates qui est la gestion des otages, qui est une véritable tragédie pour le pays. Il faut gérer aussi le cessez-le-feu au nord avec le Hezbollah qui se passe plus ou moins bien. Mais les deux cessez-le-feu tiennent pour l'instant, on ne sait pas où ils vont. Mais ce n'est pas inutile pour Israël de regarder ce qui se passe en Ukraine pour en tirer des leçons. Moi, je vois cinq leçons qu'Israël peut tirer et qui posent évidemment des soucis. Le premier, c'est que le moment venu, Trump décidera de parler au seul interlocuteur qu'il désignera et qui est l'Iran. Donc Trump parlera à l'Iran et il parlera, comme il le fait avec Poutine, face à face, directement, peut-être sans Israël. Ça, c'est la première leçon, au moins dans un premier temps. Deuxièmement, la leçon, c'est que Trump donne la priorité à l'arrêt des combats. Un homme d'affaires qui déteste la guerre, ça vraiment sa préoccupation, c'est la souffrance des gens. Je crois qu'elle est sincère, hein. Et donc il dit, il faut tout faire pour arrêter les combats. Et donc y compris faire des compromis. Et on sait que les compromis, c'est toujours perdant-perdant. Et malheureusement, celui qui perd face à la Russie, c'est l'Ukraine, et face à l'Iran, ça peut être Israël. Donc c'est ça la question, que c'est la deuxième leçon dans ces compromis à tout prix pour faire cesser le feu. Quel prix à payer et quel prix Israël devra payer? C'est ça la véritable interrogation. La troisième leçon, c'est que l'option d'une action militaire sur les sites nucléaires iraniens, elle est passée. Elle n'arrivera pas à horizon court terme, hein, et peut-être moyen terme, dès que la négociation aura commencé, les Iraniens sauront retarder éviter l'action militaire par des contorsions dont ils sont les maîtres. La quatrième leçon, c'est que traiter avec l'Iran, ça veut dire réintégrer l'Iran dans le jeu mondial, hein. C'est cesser de le faire d'en faire un paria. Il existe un pays avec lequel c'est un interlocuteur avec lequel il faut parler, et c'est un interlocuteur central au Moyen-Orient. C'est le principal cause de déstabilisation, donc il faut le réintégrer comme Trump est en train de réintégrer Poutine dans le jeu mondial. Donc ça, c'est aussi une leçon. Et puis, sur le fond, Trump aura pour, et c'est la cinquième leçon, Trump aura pour objectif, c'est que l'Iran cesse de déstabiliser le Moyen-Orient. Et donc pour cela, il est prêt certainement à lever au moins partiellement les sanctions pour rendre l'Iran plus gérable économiquement. Donc il va renforcer la capacité du régime à rester en place. Ça, c'est ça risque d'être ça, sachant que l'Iran n'est pas isolé. L'Iran parle, par exemple, dans la région, parle avec la Turquie, reparle avec l'Arabie Saoudite. Ils ont repris les relations diplomatiques. Ils se rencontrent. Donc, l'Iran fait partie du jeu de la diplomatie classique. Et donc, que peut espérer Trump en échange de ce qu'il céderait? C'est la fin de tous ces de l'armement et du financement du Hamas, du Hezbollah, des Houthis, etc., et la fin du programme militaire, aussi bien l'arme nucléaire que les missiles qui vont porter l'arme nucléaire. Et la dernière question, qui résume toutes ces cinq leçons, c'est quels seront les résultats de la négociation, et quelle influence Israël peut avoir dans le cours de la négociation pour limiter les dégâts. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui.
Vous parliez de déstabilisation du Moyen-Orient. Il y a des dangers pour Israël. Quels sont les principaux dangers?
Les deux principaux dangers au moment où les négociations vont s'engager et peut-être se conclure avec l'Iran. N'oublions pas que les États-Unis ont déjà signé un traité de paix avec l'Iran. Hein. C'était en 2015. C'était Obama, donc c'est pas impensable. Les deux dangers seront évidemment que l'Iran cède sur beaucoup de points, mais pas sur le Hezbollah. Je pense que le Hezbollah qui reste le principal point d'appui pour cet axe du mal qui est au nord d'Israël, et que l'Iran peut tout à fait bien accepter ce qui est en train de se passer, mais qu'il a déjà accepté, à savoir que le Hezbollah cesse d'être une menace immédiate militaire en se retirant du sud Liban. Je crois que ça va arriver. Mais le Hezbollah restera au Liban. Ce sont des Libanais et ils sont au cœur de l'avenir politique du Liban. Et donc le Liban risque de devenir le Hezbollah, ou le Hezbollah deviendra le Liban, c'est-à-dire l'Iran. Et donc au nord d'Israël, sur une frontière qui est importante, la menace continuera à planer. Donc ça, c'est la première grande menace, c'est le Liban hezbollisé, si vous voulez. Et la deuxième grande menace, c'est que si l'Iran reste un pays du seuil, eh bien Israël devra vivre avec une menace nucléaire potentielle.
Israël peut, en conséquence de cela, obtenir des garanties dans le monde?
Oui, je crois que c'est la clé. La clé, ça sera ça. Et vous savez, c'est toujours pareil quand les Américains obligent un de leurs amis à céder. Ils leur disent: oui, mais je vous donne quelque chose en compensation. Quelle peut être la compensation? Elle porte un nom. C'est l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, la négociation avec l'Arabie Saoudite, qui est une négociation entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, mais aussi avec Israël, elle tourne autour de, au fond, trois points. La première, c'est est-ce que l'Arabie Saoudite acceptera de signer la paix, de rejoindre les accords d'Abraham, et de constituer un front sunnite, des Arabes sunnites, face à l'Iran. Ça, c'est une sorte de garantie de coalition militaire. La deuxième, et ça c'est très important, l'Arabie Saoudite doit accepter de prendre en charge la question palestinienne. Je l'ai dit dans une interview précédente avec vous, Blaise, c'est l'Iran aujourd'hui qui est en charge de la question palestinienne via le Hamas. Et donc il faut retirer la question palestinienne des mains iraniennes, la mettre dans les mains saoudiennes, et ça vient de commencer sous nos yeux. Il y a quelques jours, les pays du Golfe, l'Égypte et la Jordanie se sont réunis pour dire à Gaza, on va pas suivre le plan de Trump de virer tous les Gazaouis, mais on prend en charge, et si l'Égypte et la Jordanie étaient là, c'est qu'ils vont jouer un rôle d'accueil ou de participation, sachant que Égypte et Jordanie sont portés à bout de bras financièrement, à la fois par les Américains et par l'Arabie Saoudite. Donc leur marge de manœuvre est limitée. Il faut qu'ils écoutent les Américains et les Saoudiens, surtout s'ils sont liés. Donc ça, c'est la prise en charge de la question palestinienne et d'un début de règlement. On ne parle pas de solution à deux États, hein. On parle d'autre chose, mais au moins de reconstruction et de solution, entre guillemets, pour ce que ça veut dire. Puis la troisième chose, c'est que, alors là, c'est la clé de tout, c'est presque une conclusion. En échange de tout ça, l'Arabie Saoudite va elle aussi demander des garanties de sécurité aux Américains. Des armements massifs, des garanties de toutes sortes. Et là, c'est compliqué parce qu'on voit bien que les Américains rechignent aujourd'hui à donner des garanties de sécurité à qui que ce soit. Ils les donneront pas à l'Ukraine, sur Taïwan, sur le Japon, la Corée, beaucoup, tous ces pays-là se posent la question de la crédibilité du parapluie américain. Donc c'est là que tout va se jouer, et c'est là où je dirais que tout peut arriver, et rien n'est garanti. Donc voilà, on a besoin de l'Arabie Saoudite, mais c'est pas obtenu d'avance.
Oui. En une petite minute, hein, Daniel Haber, comment conclure ces conversations?
Écoutez, dans les jours et les semaines qui viennent, Israël va tester l'appui qu'elle peut attendre des Américains. Je crois qu'on ne peut pas comparer ce qui se passe en Russie et qui va se passer au Moyen-Orient. L'appui américain à Israël, il est très fort, et donc il va surtout se démontrer dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent, lorsqu'il va falloir gérer à Gaza la phase 2. Elle n'est pas du tout garantie parce que quand on voit comment le Hamas gère tout ça, on peut se demander d'ailleurs s'il n'est pas complètement perdu déjà et que si c'est pas le moment de d'en finir définitivement, sachant que ce qui reste d'otages est très aléatoire. De la même façon sur le au nord, les Américains vont certainement appuyer toute intervention israélienne qui au nord d'Israël si le Hezbollah tenait pas ses promesses. Mais à long terme, c'est vraiment la négociation avec l'Iran qui va compter, sachant que derrière tout ça, il y a la Chine et que Trump est pressé de s'en prendre à la Chine et donc veut se débarrasser et du problème russe et du problème iranien. Et quand on veut se débarrasser d'un problème, on va quelquefois trop vite et on cède trop et c'est Israël qui perdrait si les Américains cédaient trop. Donc voilà un petit peu les perspectives à court terme. Elles donnent du souci à tout le monde et à nous qui sommes les commentateurs de tout ça. Elles donnent aussi beaucoup de grains à moudre et beaucoup de soucis.
Oui, et ça nous donne de la matière, hein, pour nos
Oui.
prochaines conversations. Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous, ce matin, et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.